Alors, eh bien, j'aimerais commencer par prier avec vous, si vous voulez bien. Seigneur, merci de ce beau cantique que nous venons de chanter, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, ton sang, Seigneur, enlève la peine, la misère. Seigneur, nous libère, nous donne une bonne conscience et purifie nos cœurs et nous donne la liberté d'être avec toi, de pouvoir te parler, de savoir que tu entends nos prières, de savoir que nous avons une communion avec toi. Merci de t'être approché de nous, d'avoir payé pour nos péchés et nous avoir donné la vie en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole qui continue et toujours nous fait du bien, nous encourage, nous nourrit, nous fortifie, Seigneur, et elle est la vérité, ta parole est la vérité, Seigneur. Bénis-la encore ce matin, Seigneur, qu'elle nourrisse nos cœurs et nos âmes. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors, eh bien, j'aimerais qu'on continue notre texte. On était dans l'évangile de Jean et on va prendre la suite ce matin. Donc la semaine dernière, on a vu trois groupes de personnes qui étaient loin du Seigneur. C'était d'abord les trafiquants qui étaient dans le temple, hein, les vendeurs du temple. C'était ensuite les chefs religieux qui étaient plutôt laxistes, hein, et qui laissaient faire. Et puis c'était aussi des faux croyants dans lesquels le Seigneur ne pouvait pas se fier, ne pouvait pas se confier, à qui il ne pouvait pas se fier. Et dans la suite du passage, eh bien, le Seigneur nous parle de quelqu'un de différent. Et c'est de lui dont on va parler ce matin. On est en Jean chapitre 3 et nous allons lire les deux premiers versets. Il est dit là, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors c'est intéressant. D'abord, Jésus est au début de son ministère et Nicodème a quand même remarqué Jésus-Christ. Peut-être même qu'il était présent là au temple. Hein. Peut-être qu'il l'a vu chasser les vendeurs du temple, il a vu ramasser les corps, faire un fouet. Et Nicodème se dit, mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et lui-même, on peut dire qu'il n'était pas n'importe qui. C'était un érudit, c'était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. Hein. Nicodème, eh bien, était quelqu'un de pieux, il avait la Torah, il la lisait probablement, il l'enseignait aussi. Hein. Il devait faire la lecture à la synagogue et donc donner l'explication de ce qu'il venait de lire. Nicodème n'était pas un païen, c'était pas quelqu'un qui était loin de Dieu. Non, c'était quelqu'un qui était respectueux de l'Éternel. Et comme tous les autres, eh bien, il était dans l'attente du Messie. Voilà, le Messie va venir, quand viendra-t-il? Et alors que, eh bien, beaucoup ont jeté un regard de méfiance, de suspicion, voire de rejet sur ce Nazaréen qui commençait à faire des miracles, eh bien, Nicodème, lui, se pose des questions. Et il se demande qui il est. Et il sait, au fond, lui-même, il doit venir de Dieu. D'ailleurs, il le dit, hein, il dit « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne. » Mais même si Nicodème se pose des questions, eh bien, il n'ose quand même pas venir à lui devant tout le monde. Hein. Le texte nous dit qu'il est venu de nuit. Hein. Il s'est caché, en fait. Hein. Il avait peur. Et vous savez, c'est certainement un des problèmes de ce monde. Hein. C'est que les gens ont peur. Ont peur de franchir le pas, en fait. Ont peur de s'approcher de Jésus-Christ, de lire la Bible. Ils n'osent pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je franchis le seuil de cette porte, hein? Peut-être quelqu'un va me voir en allant en marché. Donc, ils ont peur. Hein? Ils refusent. Hein? Ils rejettent quelque part. Hein? Mais Nicodème, lui, il s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Il faut que je lui parle. Alors, il se dit, mais peut-être de nuit, au moins, on ne va pas me voir et je pourrai lui parler. Et Jésus, quand même, est plein de grâce, hein, malgré qu'il veuille que ce soit caché, il dit « Ok, viens d'une manière cachée ». Il l'accueille et là, eh bien, il permet cette conversation avec lui. Et Nicodème va subir un choc, on peut dire. Regardez verset 3. « Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Et c'est quand même incroyable. Il lui dit, voilà, nous savons que personne ne peut venir de Dieu s'il ne fait ses miracles. Et lui, Jésus, directement, il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. C'est quand même assez direct, je trouve. Hein. Comme parole, c'est, il a pas mis les formes, il va droit au but, il ne tourne pas autour du pot. Hein. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est important de comprendre que Jésus n'est pas en train de proposer quelque chose, comme une nouvelle religion. Hein. Nicodème, c'était un pharisien, donc il était bien enraciné dans le judaïsme. Et finalement, même s'il y avait toujours cette foi, hein, on essayait de placer sa foi dans les sacrifices, on plaçait sa foi dans le Messie à venir, hein, eh bien, on comptait aussi beaucoup sur soi, et probablement Nicodème, eh bien, se disait, ben, je fais tout mon possible, hein, un peu comme le jeune homme riche, hein, je fais ce qu'il faut de toutes mes forces, et voilà. Hein. Et là, eh bien, Jésus lui dit pas, c'est bien Nicodème, tu es sur la bonne voie, continue à respecter la loi. Non, il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, Dieu n'attend pas de nous simplement qu'on reconnaisse que Jésus est un être divin qui fait des miracles. Il y a plein de gens qui se disent, mais quand même, Jésus, c'est une personne exceptionnelle. Moi, je crois qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il a fait ces miracles. Et Jésus ne dit pas à Nicodème, c'est bien, je suis heureux que tu reconnaisses en moi quelqu'un qui fait des miracles, c'est bien. Non, il lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, bien, Nicodème se demande, mais qu'est-ce que Jésus veut dire ? Verset 4, il lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus, là, avec cette parole, il est en train d'introduire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau pour les Juifs. Bien sûr, si vous allez rechercher dans l'Ancien Testament, vous allez trouver quand même des petites références, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques références à cette idée hein, de la nouvelle naissance. Hein. Par exemple, Ézéchiel va parler de recevoir un cœur de chair. Il va parler de recevoir l'Esprit de Dieu. Donc là, on le voit, mais c'est en filigrane. Ce n'est pas dit d'une manière très claire. Hein, ça restait quelque chose qui est obscur. Et donc, il a fallu attendre que eh bien, le temps de cette nouvelle naissance soit possible. Et le temps pour que ce soit possible, eh bien, c'était que le Messie vienne et qu'il ouvre l'accès en fait, à la nouvelle naissance. Comment ? Par sa mort sur la croix. Et Jésus nous parle de la nouvelle naissance et il nous dit que c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire on ne peut pas faire sans. C'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas né de nouveau. Impossible. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? C'est-à-dire, on ne peut pas être sauvé, en fait. On ne peut pas aller au ciel si on ne naît pas de nouveau. Et donc, Jésus est en train de parler, de sous-entendre ben, qu'il y a une éternité, qu'il y a un ciel, et aussi qu'il y a un enfer, que les deux existent. Et on est dans une société aujourd'hui où on a remplacé la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans nos cœurs par le matérialisme. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. On sait qu'il y a quelque chose. Mais cette société eh bien, nous matraque hein, sous le matérialisme. Et petit à petit, eh bien, les gens voilà, commencent à zapper, à oublier, à ne plus faire attention au fait que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes spirituels, nous avons un esprit. Ce qui veut dire qu'on est porté naturellement vers des choses qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas visibles. On sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a une éternité. Mais notre monde moderne a remplacé cela, ou tente de remplacer cela, par les choses de la terre, hein, par tout ce qui est sur la terre. Plus d'esprit, nous sommes des animaux évolués. Plus d'éternité, ce qui compte c'est manger, c'est boire, et puis ben, c'est profiter. C'est profiter de la vie, profiter et jouir de ce monde matériel. C'est de ressentir les plaisirs des sens. Ça, c'est important. Et puis aujourd'hui, c'est de faire des nouvelles expériences dans notre corps. Hein, on vous propose des tas de choses. Hein, allez-y, sautez d'un pont, faites ceci, faites cela. Goûtez, faites de nouvelles expériences. Mais la vie sur Terre, c'est pas tout. La vie ici, c'est pas tout. Et vous savez, la souffrance, la maladie, la vieillesse, la mort, eh bien tout ça, ça nous rappelle que la vie sur Terre, c'est pas tout. On n'est pas là que pour vivre sur la Terre. Il y a autre chose. Et ça nous parle de la présence de Dieu, du ciel. Et Dieu nous dit, voilà, un jour on passe de l'autre côté, et soit on est dans la présence de Dieu, soit on est éloigné de la présence de Dieu et dans les ténèbres. Et il dit, verset 5, Jésus poursuit à 7, il dit, verset 5, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jésus commence par « en vérité ». Donc c'est une vérité, c'est quelque chose d'absolu, il faut prêter attention, attention. Vérité, en vérité. Et il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, il nous parle d'une naissance, une nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Alors, certaines religions chrétiennes vont justifier ici le baptême d'eau, le baptême des enfants. Pour eux, la nouvelle naissance, eh bien, elle se réaliserait dans un baptême d'eau, dans le fait d'être trempé ou aspergé d'eau, hein, puisque Jésus dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, je vais vous lire un texte du catéchisme qui est intéressant, où il est dit « Le Saint baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, la porte de la vie dans l'esprit et la porte qui nous donne accès aux autres sacrements. Au travers du baptême, nous sommes libérés du péché et nous naissons de nouveau en tant que fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ, inclus dans l'Église et partageant sa mission. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau de la parole. » Voilà, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Hein. Et c'est clairement dit, au travers du baptême, nous sommes libérés du péché. Hein, il y a comme une purification d'après eux. Et nous naissons de nouveau, c'est la nouvelle naissance. Au travers du baptême, eh bien, nous serions nés de nouveau. Ça veut dire que, en fait, eh bien, si vous avez été baptisé bébé, ça y est, c'est fait. Vous êtes nés de nouveau. Vous seriez nés de nouveau. Mais est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire ici? Qu'est-ce que c'est que cette eau? Qu'est-ce que c'est naître d'eau et d'esprit? Est-ce que c'est le baptême? D'abord, quand vous lisez le texte, vous voyez qu'il n'y a aucune référence au baptême. Ni, il n'y a pas le mot baptême dans le texte grec, hein, baptisme n'existe pas ici, ni avant, ni après, ni ici. Hein. Et on peut tordre le texte et lui faire dire eh bien, ce qu'il ne dit pas, mais Jésus n'est pas en train de parler d'eau du baptême. Non, il parle d'eau simplement. Et puis, il faut lire les versets qui suivent. Vous ne pouvez pas prendre un verset, le tirer et puis dire ben, « c'est ça ». Non, vous lisez l'ensemble du passage et vous essayez de comprendre avec l'ensemble du passage. Et c'est très important. Jésus dit ici au verset 6, il dit « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et une interprétation possible de ce passage, c'est que Jésus serait en train de nous parler de deux naissances distinctes. En fait, de la première que nous avons vécue, c'est-à-dire la naissance physique, hein, naissance de la chair. Pourquoi? Parce qu'on vient du ventre de notre mère, tous, hein, et on était dans l'eau, hein, dans la poche des eaux. Elle s'est rompue et nous en sommes sortis. Et donc, il y a l'idée ici que nous viendrions une première fois. Il faut naître une première fois d'eau, et puis eh bien, il faudrait naître une deuxième fois d'esprit, c'est-à-dire de la naissance d'en haut, de la naissance spirituelle. Donc voilà, c'est une explication, en tout cas, qui n'est pas en contradiction avec le texte, c'est plausible, peut-être. Mais il y a aussi une autre interprétation qui est très pertinente, hein. C'est que quand vous lisez les Écritures, vous apercevez que l'eau, c'est aussi une image de la parole de Dieu. C'est très clair, hein, dans la Bible, par exemple, on va lire dans Éphésiens, je vous lis, hein, vous pourrez le lire si vous voulez chez vous, c'est Éphésiens 5 où il est dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même, donc en sacrifice pour nos péchés, afin de la purifier en la lavant par l'eau de la parole. Donc c'est clair, la parole de Dieu est une eau qui nous lave et qui nous purifie. Et quand on comprend que la nouvelle naissance, qui est aussi appelée la régénération, hein, nouvelle naissance, régénération, eh bien c'est la même chose. C'est quelque chose qui s'opère comment ? Ben, les Écritures le disent. Ça s'opère par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. C'est les deux. Dieu se sert de la parole, il agit par son esprit, et c'est là où il nous fait naître de nouveau. Par exemple, 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. À partir du verset 23, donc nous lisons, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc c'est clair, la Bible opère la régénération. C'est par elle que Dieu peut nous faire naître de nouveau. On entre dans la vie nouvelle par la parole de Dieu et Dieu se sert de cela. Il y a un autre passage intéressant, c'est Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1 et verset 13. Où nous lisons, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et là, de nouveau, vous voyez, la parole de Dieu et l'Esprit, le tout vient ensemble et c'est là où vous êtes sauvés, c'est là où vous êtes régénérés, c'est là où vous naissez de nouveau. Et donc, c'est pertinent de dire que, eh bien, naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. Et c'est une nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Jésus dit que si quelqu'un qui est né une première fois ne naît pas une deuxième fois, eh bien, il n'entrera pas dans le ciel, il n'entrera pas dans l'éternité. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair, ben, appartient à la chair, appartient à la terre. Et ce qui est né de l'esprit, eh bien, est esprit. Ça y est, ça vous élève vers la présence de Dieu qui est esprit. Versets 7 à 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et c'est intéressant ici que Jésus prenne l'analogie, prenne l'image du vent pour celui qui est né de l'Esprit. Il dit que celui qui est né de l'Esprit, c'est comme le vent. Et donc, cette naissance spirituelle, c'est quelque chose que finalement, vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Vous voyez le vent, vous ? On ne le voit pas, le vent, hein ? On en voit les effets, c'est-à-dire on voit les branches, les feuilles qui bougent, on dit « Ah, il y a du vent ». Mais s'il n'y avait pas les branches, pas le vent, pas de poussière, rien, vous ne verriez pas le vent. On ne le voit pas. Eh bien, il dit c'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. Et en fait, ça vient appuyer l'idée que ce n'est pas le baptême d'eau. Pourquoi ? Parce que le baptême d'eau, c'est quelque chose que vous voyez. Vous pouvez dire, ah ben j'ai vu, il a été baptisé, un tel a été baptisé, un tel n'a pas été baptisé. Par contre, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, ne pouvait pas le voir, c'est pas quelque chose qui était visible le jour où ça s'est produit. C'était invisible, comme le vent. Par contre, vous pouvez en voir les effets. C'est-à-dire, ah je vois que cette personne elle est différente. Je vois du fruit en fait, je vois qu'elle aime. Je vois qu'elle pardonne, je vois qu'elle continue à aimer Dieu, à lire la Bible, à prier, elle change, je vois des fruits. Ah, je peux dire, elle est née de nouveau. C'est une œuvre spirituelle que Dieu fait en nous, et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça ne se voit pas. Mais on en voit les fruits, on en voit les effets. Versets 9 et 10, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Et la question de Nicodème est intéressante. Il dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Autrement dit, « Mais comment on est de nouveau ? Comment peut-on naître de nouveau ? Simplement, il lui demande ça. Et moi, je voudrais, mais comment on fait ? Et Jésus, dans la suite de notre passage, va nous donner trois éléments pour naître de nouveau. Si vous voulez savoir comment naître de nouveau, ben, Jésus vous l'explique ici. Hein. C'est pas forcément des choses auxquelles on pense tout de suite, hein, mais il y a ces trois éléments à chaque fois que quelqu'un naît de nouveau et qu'il passe de la mort à la vie. Alors c'est le verset d'abord 11 à 13 que nous allons lire. Il dit « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et là, vous avez le premier élément important, c'est de simplement recevoir le témoignage de Jésus. Recevoir le témoignage de Jésus. On ne peut pas naître de nouveau si on ne reçoit pas, on n'accepte pas ce qui vient de Jésus-Christ. C'est-à-dire si on ne reconnaît pas et on n'accepte pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce que Dieu nous dit, ce que Jésus nous dit. Il dit que personne n'est monté au ciel, mais il y en a un qui est descendu du ciel. C'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et finalement, eh bien, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de vous parler du ciel. Personne d'autre. Parce qu'il n'y a que lui qui était dans le ciel. Il n'y a que lui qui sait exactement de quoi il s'agit. Et lui, il est descendu sur terre. Et il nous dit ici ce que c'est, ce qui s'y passe et comment y aller. Hein? La Bible dit que Jésus, lorsqu'il était sur terre, a proclamé, il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est exclusif. On pourrait dire oh, « quand même, c'est intolérant. Hein? » Mais non, c'est simplement la vérité, c'est la vérité. Et Jésus-Christ est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre, parce qu'il n'y a que lui qui vient du ciel, que lui qui est descendu du ciel, que lui qui est capable de nous expliquer le ciel et nous ouvrir la porte du ciel. Ça, c'est la première chose, recevoir le témoignage de Jésus-Christ. Ensuite, versets 14 à 16, regardez le deuxième élément pour naître de nouveau. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la deuxième chose essentielle pour naître de nouveau, c'est de regarder au Fils de Dieu et de croire en lui, d'avoir foi en lui. Dans le désert, les Israélites, vous vous souvenez dans cet épisode, étaient mordus par des serpents qui leur donnaient la mort. Ils ont crié à Moïse. Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a dit, tu vas faire un serpent d'airain en métal, tu vas le mettre sur une perche. Tous ceux qui regarderont vers ce serpent d'airain sur la perche, eh bien, la morsure ne leur fera pas de mal, ils vivront. Et ici, eh bien, la parole de Dieu nous dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, eh bien, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque regarde à lui ait la vie éternelle. Donc, il faut regarder à Jésus. Regarder par l'esprit, regarder par la foi et lui dire dans notre âme, je crois en toi, je crois en toi. C'est ça qui sauve, c'est ça qui fait naître de nouveau. Je reçois ton témoignage et je crois en toi. Un regard de la foi suffit pour être sauvé. Un regard de la foi suffit pour ne pas mourir de la morsure du péché, du venin du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commettez un péché, vous méritez d'avoir un salaire. Et le salaire, eh bien, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. C'est ça le salaire. Mais la vie éternelle, eh bien, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un regard de la foi vers Jésus et on reçoit le pardon, on reçoit la vie éternelle. Pourquoi ? Ben, le texte le dit. Parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que si je crois en lui, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Et de même que les Israélites quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient que deux options. Hein. Soit ils regardent à la perche élevée et ils vivent, soit ils font pas attention à ce que Moïse dit, ils font pas attention à cette perche élevée et ils meurent. Ils meurent dans le désert. Et de la même manière, eh bien, pour les hommes d'aujourd'hui, il n'y a que deux solutions. Il n'y en a que deux. Soit je regarde à Jésus élevé sur la croix et je vis. J'ai la vie, je reçois la vie. Soit j'ignore Jésus élevé sur la croix et je vais mourir dans mes péchés. Et mourir signifiant périr. D'ailleurs, le texte dit périr, hein, afin qu'il ne périsse pas. Et on ne parle pas d'anéantissement. Vous savez, certains disent, oh, bah, après qu'on est mort, on est bien mort. C'est fini, il n'y a plus rien. Non, on ne parle pas d'anéantissement ici. Hein. Il n'est pas question de ne plus exister et que tout s'arrête. Hein. Il n'est pas question non plus d'être réincarné. Non, il est question ici de périr, c'est-à-dire de souffrir. C'est un lieu de condamnation. Aujourd'hui, en France, quand vous êtes arrêté pour un crime, on vous met en prison. La prison, aujourd'hui, en France, on se pose la question, hein, certes, on est privé de liberté, d'une certaine liberté, je dirais, puisqu'on n'a plus, on peut plus faire ses allées et venues à l'extérieur. Hein. Mais, voilà, hein, ça laisse à désirer. Hein. Je suis déjà rentré dans une prison, j'étais surpris de voir que la drogue y circule, hein, les odeurs, voilà, tout va bien, le trafic continue, le péché continue. Donc, voilà, on est tranquille. Hein. Certains s'installent une petite piscine, la remplissent d'eau, ils téléphonent. Voilà, c'est la prison aujourd'hui. J'ai lu tout un article sur la prison au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez les prisons au Japon. Alors là, c'est autre chose. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est... En fait, vous êtes dans une petite cellule de 6,5 mètres carrés. Pas de fenêtre. On ne voit pas l'extérieur. Et vous devez vous coucher à 21 heures. Ne pas remettre les couvertures sur votre tête, interdit. Interdit de dormir sur le ventre. Vous vous levez à 7 heures et après, eh bien, vous êtes assis toute la journée à une table et vous n'avez pas le droit de regarder dans le couloir les gardiens qui passent. Toute la journée assis à la table. Et puis, de temps en temps, il y a des petits breaks, un quart d'heure. Et c'est comme ça tout le temps. C'est l'isolement total. Et de temps en temps, par semaine, vous avez le droit d'être dans une petite cellule sur le toit, à ciel ouvert, toute petite cellule où là vous pouvez voir le ciel et regretter pourquoi vous êtes là. Voilà, ça c'est la prison au Japon. Alors bon, tout n'est pas parfait. Vous savez, le système judiciaire apparemment laisse à désirer. Hein. C'est-à-dire, si vous êtes arrêté, il y a 98% de chances que vous soyez inculpé. Donc voilà, tout n'est pas parfait, hein. Mais c'est la prison au Japon. Dieu nous dit que l'enfer, eh ben c'est pas ça. Il vaut mieux la prison au Japon. L'enfer, c'est pire que ça. Vous savez, la criminalité au Japon, elle est toute petite. C'est peut-être le pays où il y a le moins de criminalité. Pourquoi ? Parce que les gens craignent. Et ils veulent pas vivre ça. Mais si les gens savaient qu'il y a un jugement, s'ils savaient qu'il y a un enfer et que c'est vrai, eh bien, il y aurait du changement probablement. Il y aurait du changement. Parce que tout ça, c'est la vérité. Il n'y a que deux choix. Soit on regarde à Jésus, on reçoit le pardon et on a la vie, soit on méprise Jésus, on néglige Jésus. Et on est condamné. Et la promesse, elle est toujours vraie. Elle est là. Versets 17 à 21. Regardez ces versets. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et un troisième élément pour naître de nouveau, eh bien, c'est de venir à la lumière. On lit dans ce dernier passage que la lumière est venue dans le monde. C'est la lumière de Jésus-Christ. Hein, c'est Jésus la lumière, qui est la parole vivante. La parole, c'est la lumière. Mais devant Jésus et devant sa parole, les hommes, encore une fois, ont adopté deux attitudes différentes. Hein. On peut toujours avoir deux attitudes, soit l'une, soit l'autre. Hein. Soit, eh bien, on vient à la lumière, ne craignant pas que nos œuvres soient dévoilées. On est prêt à exposer. Hein. Soit, parce que nos œuvres ne sont pas reprochables. Soit, parce que nos œuvres sont reprochables, mais on veut rechercher le pardon. Alors, on vient à la lumière et on expose. Et pour naître de nouveau, eh bien, il faut exposer sa vie à Dieu et dire « Je reconnais, j'ai péché, j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait, je me suis emporté, j'ai menti, j'ai triché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Je l'expose à Dieu. C'est important. Confesser ses péchés. On oublie souvent que le verbe « pécher » c'est manquer la cible, c'est rater la cible. Celui qui pêche, il rate la cible, c'est-à-dire il rate le plan de Dieu en fait. Pourquoi on est sur terre? On n'est pas sur terre pour faire ce qu'on veut et pécher. On est sur terre pour connaître Dieu et vivre pour lui. Mais celui qui pêche, eh bien, il rate le but de sa vie. Mais il peut revenir à Dieu, confesser son péché, demander pardon et revenir dans le plan de Dieu. Et reprendre eh bien, une vie où il y a une raison d'être, où on sait, je sais pourquoi je vis. Parce que Dieu m'a créé, parce qu'il a une vie pour moi, il a un plan, il a des œuvres, il veut construire quelque chose avec moi. C'est merveilleux. L'homme peut revenir dans le plan que Dieu a pour lui. Mais certains n'aiment pas la lumière. Et c'est la deuxième attitude. C'est qu'on va fuir la lumière. Et il dit, hein, car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et c'est même pas en le réfléchissant d'une manière consciente. C'est que quand on fait le mal, eh bien, on ne va pas à la lumière. On ne va pas exposer sa vie à Dieu. On ne va pas lire la parole de Dieu. Voilà, sans même y réfléchir, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut naître de nouveau, avoir la certitude du pardon, la vie éternelle? Ou bien on veut continuer sa vie tranquille, faire ce qu'on veut, dans son péché, et puis on verra bien à la fin. On verra bien à la fin. Dieu dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, il faut réfléchir. Aujourd'hui, il faut prendre une décision et s'arrêter et exposer sa vie. Exposer sa vie. Voilà. Si je veux naître de nouveau, si vous voulez naître de nouveau, il faut recevoir le témoignage. Il faut exposer sa vie, exposer ses péchés, demander pardon. Et puis, il faut croire en Jésus, regarder en Jésus, saisir le pardon qui nous tend. La promesse est toujours là, la main est toujours tendue. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Vous savez, quand on est né de nouveau, on le sait. On le sait pourquoi? Parce que c'est comme le vent. On en voit les effets. Les autres voient les effets, mais vous voyez aussi les effets. C'est clair. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vous n'êtes plus la même personne. Vous le voyez. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors eh bien le choix est toujours devant vous. Il n'y a que deux possibilités. Soit lever les yeux, croire et saisir, hein, soit eh bien détourner le regard, hein, et rester dans les ténèbres. J'aimerais vous inviter à prier maintenant. On va s'incliner dans la prière. Et c'est Jésus qui vous tend la main. C'est Dieu le Père qui vous montre son Fils ce matin et qui vous dit « Crois en lui, crois en moi ». Dieu vous appelle. Son Esprit est sur vous. Et son Esprit vous dit « Fais-le ». Saisis le pardon. Je t'accueille aujourd'hui. Reconnais ton péché. Demande-moi pardon. Et crois en mon Fils bien-aimé. Faites-lui cette prière dans votre cœur si vous le voulez. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es la vérité. Je crois en toi. J'accepte ton témoignage. Je lève les yeux maintenant vers toi, par l'Esprit. Je te demande pardon pour mes péchés. Je ne veux rien te cacher. Sauve-moi, s'il te plaît, maintenant. Fais-moi naître de nouveau. Et pendant que nous avons la tête baissée et les yeux fermés, eh bien, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez fait cette prière ? Si vous l'avez faite, eh bien, simplement, levez brièvement votre main. Oui, je la vois. Levez brièvement votre main pour dire, j'ai fait cette prière. Je la vois. Baissez-la. Est-ce que quelqu'un d'autre a accepté Jésus ce matin ? Est-ce que quelqu'un a dit au Seigneur, je veux naître de nouveau ? Fais-moi naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un veut encore le faire ? Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu accueilles aujourd'hui quiconque croit, quiconque lève les yeux vers toi. Je te remercie aussi, Seigneur, parce que tu es toujours plein de patience, attendant, Seigneur, que eh bien, nous puissions saisir ta main qui nous est tendue. Et je te prie pour toutes celles ou ceux qui ont besoin de faire ce pas mais ne l'ont pas fait. Seigneur, bénis-les et continue à poser ta main sur eux, Seigneur, et à leur montrer que tu les aimes. Merci pour ta patience, Père éternel. Et je te prie, Seigneur, pour celles et ceux qui ont levé la main. Seigneur, bénis-les, Seigneur, et vraiment donne-leur cette assurance, cette certitude du pardon des péchés, de la vie éternelle. Seigneur, je te le demande par Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser Romuald poursuivre.
Bien, si vous avez un